Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Ecco qua, ho cercato il sole dappertutto questa mattina, non l'ho trovato.
Sniff. Bah, écoute, on va être dans quelques minutes à Cannes et donc Fabrice Massera va nous dire si il fait beau sur la croisette.
Tu rêves.
Dai, va. Possiamo sognare, no? Voilà, merci pour ton petit coucou que tu as fait aux personnes qui ont été blessées dans l'attentat hier.
Je voulais simplement dire que je leur souhaitais un bon rétablissement. Espérons que tout aille bien.
Merci. Alors bonjour les amis du dimanche matin, en commençant la journée avec un bon cappuccino. Aujourd'hui dans le sommaire, eh bien dans quelques instants, nous aurons un direct du Festival de Cannes avec notre ami Fabrice Massera, avec une intervista de... Non, je ne vous dis pas, ce sera la surprise. Et en deuxième partie, vers 9h45, nous aurons le groupe de chant de femmes, Lama Jazz, qui seront en concert le samedi 30 à 20h et le dimanche 31 à 15h, 57 rue Étienne Marcel à Montreuil. Et ils chanteront en direct dans Cappuccino dans quelques minutes. Mais de suite, direction La Croisette à Cannes avec Fabrice Massera. Oh, ça te dit quelque chose, ce générique, Fabrice?
Buongiorno. Oui, oui, c'est la musique du tapis rouge, Camille Saint-Saëns.
Voilà, tout à fait. Alors, on se demandait... Quel
temps... Je ne suis pas en smoking ce matin.
Ah non, dommage. En principe, c'est le ne pape qui est de sortie là-bas. C'est le ne pape qui est de sortie.
Oui, oui.
Obligatoire le pour les
obligatoire.
Hommes.
Ouais. Obligatoire.
Alors, quel temps il fait, là, juste pour nous faire bisquer?
Alors, le point météo, ces jours-ci, il y a énormément de vent. Ce matin, il y a un petit peu de vent, mais il fait très beau. De toute façon, il a toujours fait beau. voilà, il ne fait pas hyper chaud, mais il fait très beau. Là, le jour se lève gentiment, là, sur la baie de Cannes. C'est magnifique.
Bon, la semaine dernière, j'avais dit, oh non, il pleut toujours à Cannes. Puis finalement, tu vois,
cette année, mais cette année, non.
Ça a l'air
cette
d'être
année,
bon.
Il fait beau.
C'est bien parti.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui se passe à Cannes et qu'est-ce que tu as vu de beau? Raconte-nous un peu.
Alors, je vais vous donner un petit mot sur le Festival de Cannes, parce que c'est toujours un miroir de la société actuelle qui questionne les problématiques d'actualité, les mutations de notre société. Et donc, il y a par exemple une scène d'agression sexuelle par le personnage de Pierre Ninet dans l'histoire parallèle de Asghar Farhadi, qui est une adaptation du Décalogue 6 de Krzysztof Kieślowski. Il y a le personnage de Léa Seydoux dans Gentle Monster, dont le mari possède des centaines d'images pédopornographiques sur son ordinateur, donc ce qui va avoir des conséquences sur son couple. Ou encore une femme en couple sous emprise de son compagnon dans Si tu penses bien de Géraldine Nakache, que j'ai vu hier. Donc voilà, c'est un peu de la violence ordinaire la société
c'est dur,
aujourd'hui.
Ouais, mais c'est un peu la
c'est pas toujours évident, mais d'aujourd'hui. C'est pas... par exemple, dans le film de Géraldine Nakache, son compagnon, c'est un super papa, c'est quelqu'un qui n'est pas violent et pourtant qui la met sous emprise. Donc c'est une sorte de violence ordinaire, mais qui a de multiples conséquences, évidemment, dans sa famille. Donc c'est le cinéma permet ça parce que la longueur d'un film permet d'aborder tous les petits aspects, les signaux faibles qu'on ne repère pas. Et c'est vrai que ça nous aide aussi dans nos vies pour repérer quand ça va pas. Mais on ne sait pas. C'est pas de la violence physique qui est on dit bon, c'est bon, on n'a pas envie de ça, on identifie tout de suite. C'est une violence beaucoup plus insidieuse.
Ouais.
Voilà un peu les premières impressions des films que j'ai vus.
D'accord. Alors, on se rappelle, il y a quelques années en arrière, toi aussi, tu te rappelles, tu parlais d'une scène de violence terrible, c'était avec Monica Bellucci, où les femmes étaient tombées dans les pommes. Hein, dans la salle.
C'était carrément, carrément un viol. Donc c'est pour ça, là, c'était plus violent. Là, c'est plus une violence ordinaire et qui traverse la société. C'est pas aussi choquant à regarder, mais c'est vrai que ça nous interpelle et bon voilà, c'est pas que du divertissement, ouais. C'est aussi des questionnements comme ça sur la société.
Bon, ok, on espère qu'en deuxième semaine il y aura des sujets un peu plus sympas.
Alors
un peu plus léger.
Leggero, comme chante Ligabue.
Si, alors tu as eu aussi un interview très sympa, une petite question, mais très sympa.
Voilà, donc j'aurais parlé du film coproduction franco-italienne de La vie d'une femme, Charline Bourgeois-Taquet, avec Léa Drucker, Eri De Luca, Laurent Capelluto. Je rappelle juste l'histoire. Gabrielle, une chirurgienne interprétée par Léa Drucker d'âge mûr, qui est sans enfant, qui est accaparée par son travail, par sa famille aussi, qui est aidante envers sa famille. Et donc j'ai assisté le lendemain de la projection du film à la conférence de presse. Et donc j'ai posé une question à Eri De Luca, évidemment, l'occasion était trop belle. Et aussi j'ai fait un petit témoignage à Léa Drucker.
On écoute tout de suite.
Bonjour, Fabrice Mazera, Radio Aligre et Top Italia. Je voulais exprimer mon coup de cœur à Léa Drucker pour l'écho qu'elle donne aux métiers médico-sociaux dans vos films. La coordination manualité-oralité, un magnifique ballet. J'avais une question pour Eri De Luca. Comment vous témoignez dans votre travail de l'âme qui mute? L'anima che muta, mutande.
Moi, je m'occupe plus du corps que de l'âme. Je suis plutôt un écrivain physique qui reçoit les idées à travers l'expérience physique du corps. Donc la tête est la dernière à savoir qu'est-ce qui se passe. Et alors, mais ça qui me plaît, j'ai vu ce soir ce film et j'ai aimé le fait qu'il s'agit de la vie d'une femme, mais aussi de la vie d'une citoyenne. Une citoyenne qui s'engage complètement dans sa dévotion au travail et à son commitment, à son engagement pour mieux faire pour la société. Et donc il y a cette chose petite, héroïque, de certaines personnes qui sont une minorité dans notre société, mais qui arrivent à tenir ensemble les fibres d'une société qui est délabrée maintenant.
Voilà, alors Eri De Luca, lui, il a dit, moi, c'est plutôt le corps qui m'intéresse que l'âme. C'est sympa, cette réponse, je trouve. C'est très direct.
Oui, et d'ailleurs, je pensais à toi, Michel, quand je posais cette question, parce que j'avais vraiment à 2 mètres de moi Mélanie Thierry.
Ah oui, tu m'as dit.
Avec les cheveux courts, elle était avec une chemise, cravate, façon un peu garçonne. Et d'ailleurs, je te recommande même, conseil personnel pour toi, La Femme 2, c'est un de ses derniers films. C'est un film de David Roux sorti le 8 avril, où elle crève l'écran, parce que là, dans le film La vie d'une femme, elle a un beaucoup plus petit rôle, mais elle a un premier rôle dans La Femme 2, qui est un destin féminin au sein d'un couple dans un milieu catholique traditionnel. Voilà, si t'as l'occasion de regarder, elle est magnifique dans ce film.
Tu n'as pas fait de photos avec elle, qu'on te voit
Non, j'ai pas fait de photos avec elle, mais je t'enverrai des photos d'elle avec sa tenue à Cannes, là, c'est fantastique. Je voulais juste, avant de parler de Vittorio De Sica, parler d'un coup de cœur, c'est le film Fatherland de Paweł Pawlikowski, c'est un réalisateur polonais. C'est sur le personnage de Thomas Mann, dont Visconti avait adapté Mort à Venise. Le film est magnifique, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est un film en noir et blanc, il revient dans l'Allemagne nazie à l'après-guerre. Il y a des chants polyphoniques, c'est pour ça que je pense à la Magies, et des chants polyphoniques dans le film qui sont de toute beauté. Ça fait penser un peu à l'année dernière à Marion Dade de la Rene, qui était dans l'Union à Venise en 61. Voilà, c'est magnifique, ça s'appelle Fatherland. Mais sinon, le gros morceau, je l'ai vu hier soir, c'est le documentaire sur Vittorio De Sica, avec une délégation italienne qui était très nombreuse dans la salle. C'est un documentaire majeur vraiment sur une figure essentielle de l'histoire du cinéma italien. Rapidement, Vittorio De Sica, il a commencé en tant que chanteur, ensuite il était comédien, c'est le premier acteur du cinéma parlant italien. Il a obtenu un premier Oscar pour un film non anglophone avec Chuchia, Après, ça a été Le voleur de bicyclette, 5 Oscars au total. Son film préféré, c'est Umberto D. Et donc, dans le documentaire, il y a des intervenants prestigieux. Il y a le réalisateur Wes Anderson, qui est producteur exécutif du film. Il y a Isabella Rossellini qui raconte comment son père, Roberto Rossellini, avec Vittorio De Sica, sur des marches de Rome, ont donné naissance au réalisme italien en parlant de l'Italie des pauvres, ce qui fut mal vu à l'époque par l'État, par le gouvernement, mais a eu un énorme écho aux USA, où les Italo-Américains se sont vraiment reconnus et ont beaucoup honoré le néo-réalisme italien. Il y a les réalisateurs Francis Ford Coppola dans le documentaire, les frères Dardenne, Asghar Farhadi, l'actrice Dominique Sanda et deux invités récents de Cappuccino, de toi Michel, Nicola Piovani, le compositeur, et que tu avais reçu il y a quelques temps, plusieurs fois d'ailleurs je crois, et Jean Gilly qui signe un ouvrage tout sur Vittorio De Sica et qui vient aussi de signer un ouvrage tout sur Luchino Visconti qui vient de paraître. Voilà, donc dans le documentaire, on aborde aussi l'intimité du maître parce qu'il avait deux familles, parce qu'à l'époque, dans les années 50, en Italie, la loi interdisait le divorce.
Et oui, il y en avait beaucoup.
Il était obligé de rester marié avec sa première femme.
Ouais, ouais.
Donc voilà, et aussi sa relation avec le Cesare Zavattini, son scénariste, une collaboration de 3 décennies. Et je vais terminer avec ça. Ce qui était très drôle que raconte Zavattini, c'est qu'il décrit leur relation comme le cappuccino. On ne sait pas qui est le café ou le lait, tellement ils sont unis.
Une relation unique. Ok, merci bien. Alors on se retrouve nous dans 15 jours parce que tu feras justement une émission un peu plus complète pour parler.
Voilà,
de
donc
tout
la
ça
suite
quand
du festival, ce sera le dimanche 31 mai pour
9h30,
avoir la suite du festival de Cannes. Et j'aurai d'ailleurs une interview d'un ami de Cannes, d'un ami de l'Italie, un grand technicien de la photographie. Ce sera Nico Saliagas qui sera en interview.
C'est vrai, superbe photographe. Merci à toi, bonne semaine. Et
on se
retrouve
très vite. Merci beaucoup Michel,
merci
à toute l'équipe.
Merci.
Ciao.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, nous sommes effectivement avec la Maggese et donc on est content parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on les a pas eu au micro de Cappuccino. Ça fait, oh là là, je sais même pas depuis combien de temps. C'était rue de Montreuil, donc c'est assez loin. Et donc on a Anna Andreotti et Margherita Trefoloni. Merci à vous deux d'être là parce que c'est toujours un peu compliqué pour vous le matin parce que je sais que souvent vous faites des répétitions, voire des spectacles le samedi soir. Comment ça va? Comment va la Maggese?
Elle va bien. Elle est fatiguée comme toujours, mais elle va bien.
Vous êtes en pleine répétition, puisque cette semaine, on s'est eu au téléphone plusieurs fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on dit « Oh, on sort de répétition, c'est compliqué, etc. etc. » Donc voilà. Alors, racontez un petit peu, parce que comme ça fait déjà peut-être 3-4 ans, je ne sais même pas exactement depuis combien de temps vous êtes venu à Cappuccino, qu'est-ce que la Maggese ? Comment est née la Maggese ? Que fait la Maggese ? C'est plein de questions. Voilà, vous répondez toutes les deux, soit Anna, soit Marguerite.
Mais la Maggese, elle est née en 1991, hein, au moment que je suis arrivée sur Paris. Et à l'époque, elle s'occupait essentiellement de théâtre et écriture contemporaine. Mais dans tous les spectacles de la Maggese, il y a toujours eu une grande partie de chant. Etc. Après, à fur et à mesure, quand je suis arrivé à Paris, en 91, j'ai connu la dame qui chantait tout à l'heure.
Marine et Joanne.
J'ai connu Joanne, j'étais à l'université. Et donc, j'ai suivi ses cours. Et donc, du coup Maggese, elle a pris un virage terriblement tendance, disons, chant des traditions orales italiennes. Voilà. Et à partir de là, au bout d'un moment, elle a fait plein de copains, plein d'amis qui partagent cette aventure. Et en quelle année est arrivée Marguerite ?
Eh ben, 2009. En fait, Anna, elle a dirigé un groupe qui s'appelait Chant des Rages et des Révoltes à Montreuil. Et ça me parlait bien. Ouais. Donc voilà, c'était des chants traditionnels, mais qui étaient effectivement... dans la fonction du soutien aux luttes. Et donc, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, petit à petit, il y a eu tous les projets, justement, sur les traces de l'immigration italienne qui a commencé.
Et là, on a rencontré Francesca Perugini.
Buongiorno.
Et voilà, chose est devenue une chose, au fur et à mesure, c'est une sorte de famille des fous furieux du chant et du théâtre, voilà, parce que j'arrive pas à faire autre chose, parce que c'est mon métier. Voilà.
Alors, on revient juste deux secondes, parce qu'on est parti un peu vite, mais juste un hommage de Joanna Marini, on l'a écouté tout à l'heure, c'est parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui est très important dans votre parcours. Et puis, on a dit d'ailleurs qu'on ferait peut-être en fin d'année une émission sur la date de sa naissance, parce que là, c'était il y a très peu, c'était la date de sa mort. Hein, Joanna Marini est décédée il y a très peu de temps, le 8, il y a quelques...
Il y a deux ans.
Deux ans déjà. Deux mots sur Joanna Marini, la grande prêtresse des chants traditionnels italiens.
Pas que ça, hein, c'était une compositeur, un très bon compositeur, un des meilleurs compositeurs de musique contemporaine, vocale. Hein, entre autres, c'était quelqu'un qui faisait de la collecte, de la recherche. C'était une pédagogue extraordinaire. Elle a fait des petits un peu partout, dont on fait partie. Et c'était un être humain rare, d'une générosité, une humanité. Voilà.
Elle aimait beaucoup la France parce qu'on voit souvent, voilà, sur Internet, on revoit des stages qu'elle a fait avec vous, hein, notamment, pendant des années, elle parlait bien le français. Donc, il y avait aussi cette interaction avec la France.
Mais la France a été accueillante elle. Elle était accueillante au moment où, en Italie, politiquement, ce n'était plus accueillant. Donc, on ne trouvait plus à travailler si on avait des idées un peu trop à gauche.
Ah, d'accord.
Et la France, elle est un peu plus ouverte.
Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, et on espère faire une émission ensemble sur elle dans quelques mois maintenant. Voilà. Donc on revient là avec la Maggese. Alors, mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée d'aller rechercher les chants traditionnels italiens, souvent un peu des chants de femmes. Et puis on a souvent en tête cette idée des mondines. Hein. C'est souvent un petit peu par là que ça a commencé, parce que les gens qui connaissent un petit peu chants traditionnels italiens, enfin même en France un petit peu, on commence avec Bella Ciao, c'est très bien, alors que Bella Ciao, c'est pas du tout le chant habituel, c'est les mondines qui ont chanté ces chants-là dans les rizières. Pourquoi vous avez été dans cette recherche des femmes qui...
C'est pas forcément les femmes.
Hein.
L'amour pour les chants traditionnels vient de Giovanna, hein, qui nous a ouvert la porte. Et aussi, ça vient d'un travail qui a démarré en 2010, et que c'était, que c'est un travail qui continue encore, qui s'appelle Sur les traces de l'immigration italienne. Du moment où moi, personnellement...
Ça, on en parlera un peu plus tard, si tu veux bien, non, parce non. que c'est important. Non, mais c'est important.
Mais c'est ça, c'est la réponse à ta question. Donc,
d'accord. parce que, en fait, que ça, c'est quelque chose d'important aussi, ce que vous faites, cette collecte.
Non, 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 mais ça fait partie de ça, dans le sens... Giovanna, elle nous disait toujours, allez enregistrer aussi en France, il y a des choses. Ah, et moi, d'accord. quand j'ai eu des enfants... petit, je pouvais plus aller en Italie à écouter les gens qui chantaient. Et donc, je me suis mis à écouter les gens qui chantaient encore ici. Et c'est là qu'est née cette histoire. Et après, maintenant, on y retourne à là, dans les endroits où les gens nous ont chanté. Et on redécouvre les gens qui continuent à chanter et qui continuent à tenir vivante une capacité, un savoir-faire, une intelligence, une culture rare et unique.
Alors, on va écouter justement là le chant des martyrs. Hein, c'est vous qui avez choisi les chansons et les passages où vous allez même faire des lectures et vous allez même chanter. Pourquoi le chant des martyrs ?
Mais justement, parce qu'un jour, je me suis trouvé près de l'hôpital Thénon, dans un appartement rez-de-chaussée où j'ai interviewé un certain monsieur Henri Crotti, qui était un résistant. Un résistant, médaille d'or de la résistance, qui avait entre autres organisé toute la résistance du côté de Poitiers, hein, dans tous ces coins-là, et qu'un jour, il était en camp de concentration près de Poitiers, et il a organisé la fuite de plus de 40 prisonniers, la veille d'être déporté en Allemagne. Ce qui a donné lieu au film américain avec Anthony Quinn, je crois qu'il y a...
La grande évasion.
La grande évasion. Mmh. Et c'était un être humain rare, absolument pas égocentré sur tout ce qu'il avait fait, très touchant. Et donc, à partir de ces témoignages, après, il y en a eu une montreuilloise qui a témoigné, qui est de la famille Fontanotte à Fiche Rouge. Un autre monsieur à Montreuil qui m'a raconté de son grand-père et de son père qui imprimait, son grand-père, il imprimait tous les faux papiers. En s'étant enfui de lit, Paris, etc. Et donc, voilà.
Pour ça, mais qui a écrit ce
Personne n'a écrit. Non. C'est des témoignages que moi j'ai coupés.
Que tu as mis en chanson.
Non. Et donc, Henri, il a chanté, dans les chants qu'Henri Crotti m'a chanté, il y a entre autres le chant des martyrs,
d'accord.
qui a chanté dans les camps de concentration en se mettant debout sur une table. Les jours où il a su de la mort de Saint-Pé et de Gabriel Péri, qui sont pas que des rues.
Oh.
et vous êtes à l'écoute de Cappuccino. Nous sommes avec la compagnie La Maggese. Alors, Anne, ce chant, il est ni français ni italien.
Il est russe.
Voilà. Mais on sent quand même dans les chœurs. Hein, ça sent
ouais, un c'est un chant russe de la révolution de... C'était pas la révolution de 17, c'était une avant, je crois, une tentative de révolution avant, voilà, où ils avaient été massacrés. Donc voilà, logiquement, il y a du communisme dans l'histoire parce que beaucoup de résistants, ils étaient communistes.
Comme oui, avec... tu as parlé de l'affiche rouge, hein, qu'on ouais. peut voir aussi, qui est également garibaldien, on connaît bien.
Ouais.
La salle des garibaldiens qui va peut-être être sauvée.
Oh, ça, c'est formidable. C'est super, ouais, ça c'est une très bonne nouvelle.
Communauté qui s'est un petit peu... On rappelle que donc vous serez en concert le 30, samedi 30 à 20h et le dimanche 31 à 15h, 57 rue Étienne Marcel à Montreuil. Voilà. Vous voulez peut-être tu voulais préciser quelque
chose? Oui, juste en fait l'enregistrement donc qu'on vient d'entendre, en fait, c'est un concert que nous avons fait avec les chœurs de l'immigration à la salle Prévert auprès de Saint-Gervais. En fait, c'était un concert qui était organisé par une association qui aide en fait les migrants, qui s'appelle les Solidaires du Pré, donc auprès de Saint-Gervais. Et du coup, voilà, c'est les chœurs de l'immigration qui chantent.
On salue aussi Francesca Perugini. Come stai? Ben, voilà. Comment tu as rejoint la Maggese?
J'ai rejoint la Maggese il y a pas mal d'années. Je ne saurais pas dire exactement. Je pense 2011.
Décembre 2011.
2011, presque, voilà. Et donc, ben, depuis, c'est une aventure qui continue, qui prend de l'ampleur, qui prend beaucoup d'ampleur dans ma vie. Donc, voilà, j'essaie de suivre tous les projets foisonnants de Anna et de Marguerite. Et donc, voilà, c'est une deuxième partie de ma vie, quoi. Donc.
Et pourquoi à Montreuil? Parce qu'on voit que c'est souvent à Montreuil que vous faites des concerts et... Pourquoi ce... Ouais, il y a beaucoup d'Italiens qui sont là-bas.
Parce que quand Maggese est né dans le 18e, il faut dire. Voilà. Et un jour, j'ai déménagé à Montreuil.
Montreuil. C'est tout bête.
C'est ça. Ça va, voilà, c'est... Voilà.
Alors, et, au fait, une question toute bête aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, la Maggese?
La jachère. La jachère, ça veut dire que c'est quand toi tu plantes, je sais pas, tes tomates, hein, l'année d'après, si tu es un pollueur de terre, tu bourres ta terre d'engrais et tu replantes tes tomates. Mais si tu es quelqu'un qui respecte un peu le cycle de la nature, tu laisses reposer ton champ, tu plantes les tomates dans celui d'après et ton champ il se régénère. Et ça, c'est la Maggese.
D'accord, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas laisser une année comme ça. Hein,
non, mais ça on nous met beaucoup même d'années pas. Pour sortir des choses.
Je crois que vous avez beaucoup de concerts prévus pour cette année 2026. Alors là, on va vous écouter faire une lecture et un chant, lecture passage friolant. Expliquez, Margarita.
Oui. Donc oui, c'est un extrait en fait du spectacle qu'on fera donc les 30 et 31 mai à l'Aïri, donc dont tu parlais. Et c'est un passage, en fait, un échange de paroles entre donc Caterina, donc qui est la petite nièce en fait de Spartaco Fontanot, donc dans l'affiche rouge, et une autre personne qu'on a interviewée qui s'appelle
Jean-Frédéric, on va pas dire le nom, qui est frioulant. Voilà. Dont le père, il est parti en camp de concentration et il est revenu. Ouais.
J'ai pas tous les documents, mais certaines choses. Mon arrière-grand-père Fontanot. Ici, il y a toutes les cartes du parti, les certificats. Ecco, vedi, en 44, les frères les plus petits est mort, fusillé par les Allemands. Et les plus grands, en 43, fusillé par les Allemands.
Oh, il a un passé extraordinaire, mon père. Il est mort. Il est bon. Extraordinaire à Paris, surtout.
Il a été résistant.
Oui. C'était un peu tous les communistes qui étaient résistants.
Voilà. Nerone Fontanot, décédé à Biervienne. C'est un camp connu. Hein. Mon arrière-grand-père. Ah oui, lui, il est mort dans les années 60. Mais ça, ma grand-mère me l'a dit avec lucidité. Lui, il est mort quand ses fils sont morts.
De 1920 à 1945, mon père, il avait donné énormément.
Émancipazione friulana?
Oui. C'était une chorale, tous friulans. Chorale Giuseppe Verdi.
Ils sont tous issus du Parti communiste. Tous. Et lui en était un des responsables. Équipe-là, pendant la guerre, est né donc un groupe de résistants.
Ma grand-mère reçoit encore aujourd'hui la retraite des résistantes. Tu vois, tu peux les lire dans les livres, tu sais que les résistants vivaient cachés dans la clandestinité, donc évidemment mes grands-parents, ayant été partisans, ils ont dû vivre comme ça. Et pourtant tu fais pas la liaison. Je ne me suis jamais posé des questions sur comment ils ont vécu dans la clandestinité. Les documents, les cheveux teints, les faux noms, capito. Par contre, pour eux, c'est comme ça. Et quand on demande, bah oui, on était des clandestins.
Très beau quand vous chantez toutes les trois. Ça raconte des histoires terribles, mais en même temps, c'est important de ce devoir de mémoire. Parce que, en fait, effectivement, tous ces gens, malheureusement, que vous avez même recueilli les témoignages, commencent à partir. Et donc, c'est important qu'il y ait une trace, c'est pour ça d'ailleurs que vous appelez ça sur les traces de l'émigration italienne. Alors, comment ça se passe quand vous avez décidé à aller vers les gens pour leur demander, raconte-nous ta vie, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a été dur, etc. Est-ce que les gens, comment ça se passe? Est-ce que les gens s'ouvrent? Est-ce que c'est compliqué quand il y a des choses dures? Est-ce qu'on en parle?
Le contraire, moi je raconte toujours qu'est-ce que j'ai fait, qu'on peut me raconter tout. Je m'offre en matière comme immigrante. Du moment que moi aussi je suis immigrante, ce n'est pas une immigration dure comme beaucoup d'autres gens, mais quand même, quand on est immigrant, on sait très bien qu'est-ce que c'est difficile quitter d'où on vient, que c'est dit comme ce statut de non-habitant nulle part parce que tu restes étranger en Italie et en France à bout d'un moment. Donc tu t'offres comme... tu connais qu'est-ce que c'est le ressenti des gens. Et les gens, ils s'ouvrent. Après, le fait de ne pas filmer, mais d'interviewer, enregistrer seulement, l'enregistreur, on l'oublie. Et aussi, je dis toujours, si tu veux que ça ne soit pas enregistré, ça ne sera pas enregistré. Donc, j'éteins l'enregistreur. Ou ils peuvent me dire, regarde ce morceau-là. Et à chaque fois que j'ai fait un montage des textes, parce que là, par exemple, c'est deux personnes qui se ne sont jamais rencontrées. Hein, une était en banlieue, dans les Yvelines, il me semble, et l'autre, c'est à Montreuil. Hein. Et donc, ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, je leur envoie les textes, comment je les montais. Et s'ils veulent changer quelque chose, ils le changent. Je ne change pas leurs mots. Hein. Je monte les choses ensemble. Et donc, et ça m'est arrivé, je crois, une fois, mais vraiment des petites choses. Quelqu'un qui était plus timoureux par rapport à certaines choses, mais sinon, voilà, jamais, même, même moi, donc, dans ces cas-là, ça ne sera pas moi qui va jouer ce témoignage-là, mais c'est un autre comédien qui va venir d'Italie. Mais même quand je joue un homme, les gens ne se sont pas trahis, parce que du fait que tu as été là, tu les as écoutés parler. Souvent, ces gens sont devenus des amis. J'ai beaucoup d'amis, moi, maintenant. Beaucoup d'amis, des filles, les fils. Et voilà, on se trouve malheureusement des fois aux enterrements, à chanter. C'est devenu une façon de lire la France, lire l'Italie à travers un moment de confiance. Ouais.
Alors, on va écouter la Partiro Faro Partenza.
Oui, Marguerite. Ça c'est donc il y a la collecte des chants, il y a la collecte des chants ici en France, aussi en Italie, parce que nous organisons beaucoup de voyages, en fait, des recherches et là-bas, parce qu'il y a encore énormément de gens qui chantent, et pas que dans les rites, disons, de la sacrée, mais il y a beaucoup, beaucoup de lieux de résistance du chant. Et donc, dans un de ces voyages, en fait, on est allé à Gênes écouter il Trallallero, donc, qui est un chant très, très particulier.
Mais ça vient... Tout à l'heure, c'était Fabrice Mazère, non?
Oui, voilà, si, exact. Si,
donc, un jour, j'ai interviewé la maman de Fabrice.
Ah, Louise.
La magnifique, oui. Louise. Et avec des amis à elle qui m'ont chanté beaucoup, beaucoup de chants. Et dans ces champs-là, leur village, c'est juste à haut de Gênes. Hein, même si c'est en Émilie-Romagne, parce que la province est Ferrière. Mais c'est Torrio, c'est à haut de Gênes. Il y avait des petits bouts, des choses qui me rappelaient tellement le Trallallero. Et donc, on a organisé un voyage pour aller écouter le Trallallero. On s'est fait des amis qui on a ramenés même ici à faire un stage. Donc, c'est une façon à nous aussi de comprendre ce monde avec des allers-retours.
Io partirò,
merci à la compagnie de la Maggese d'être avec nous ce matin, Francesca, Anne et Marguerite. Et en fait, on est content parce qu'on sait qu'ils vont encore chanter dal vivo. Et ça nous plaît parce qu'il y a une émotion qui ressort. C'est extraordinaire parce qu'en plus, il faut expliquer qu'on est dans un petit studio avec des micros qui sont un peu serrés, tout ça. Et finalement, j'espère que pour vous, ça passe très bien aussi. Voilà, merci à eux trois. Juste pour revenir à ces témoignages que vous récoltez, vous en avez... combien?
J'ai dépassé au moins, je pense que j'ai largement dépassé les 95 témoignages. Mais c'est des heures et des heures. Au bout d'un moment, là, le dernier, je l'ai fait l'année dernière.
C'est la 9e station, c'est ça
Ah oh, bon, là, on a dépassé la 13e.
Ah, 13e. Ouais.
Parce qu'il y a aussi beaucoup de... Enfin, il y a aussi des entretiens qui ont été faits à Charleville-Mézières, à Sète, à Dijon. Donc, il y a quand même une amplitude.
Ce qui serait bien, c'est que, en fait, nous, on est un média audio. Donc, ces témoignages, il faudrait absolument que nous, on en passe une partie dans Cappuccino, parce que c'est des témoignages d'émigrés italiens qui sont dus en France, qui ont eu des problèmes et tout, etc., qui expliquent leur vie. Et ça, ça parle à tout le monde, ça parle à tous les auditeurs. Donc il y a un moment, il faudrait qu'on essaye de trouver un système pour pouvoir en passer quelques-uns. Ça serait super. Alors, vous allez donc de nouveau chanter les Montevergini. Expliquez-nous ce que c'est.
Montevergine Connection, c'est un spectacle que désespérément on essaye de faire depuis 2020. Hein? Donc on va y arriver un jour, on va y arriver j'espère cet été. Et c'était à partir de la réflexion de pourquoi la figure de la femme, ou comment la sexualité est vue dans ce monde, dans le monde de la tradition orale, donc du chant de tradition orale. Ça fait que ça nous a amené à chanter énormément de chants religieux, entre autres des saintes et des vierges, dans tous les sens.
Des martyrs.
Des martyrs, des choses mais vraiment
terrible, quoi.
Terrible. Oui. Et mais des très, très beaux chants.
Finalement, voilà. Il n'y avait pas de femmes. On aperçoit qu'il y avait soit des saintes, des vierges et des martyrs. Martyrs,
et des martyrs.
Les femmes n'existaient pas, quoi, à cette époque-là.
Ben là, il y a aussi une femme ordinaire, que c'est la pauvre Cecilia, laquelle on retrouve sur toute l'Italie et qui est un peu tosque, hein, un peu c'est la femme qui se sacrifie pour sauver son mari qui est en tôle, se sacrifie à coucher avec le capitaine et après le capitaine il pend le mari.
Ah,
et
ben,
donc elle dit à général Boll, dans des fois elle prend, elle tue le mari, elle tue le capitaine quand même. D'autres fois elle se dit ras le bol des mecs, je monte en haut d'une montagne, fichez-moi la paix. Donc voilà, se voit comment dans la tradition orale on arrivait à s'entendre ou à pas s'entendre. Et qu'est-ce que tous ces chants trimballent comme morale aussi. Et ce n'est pas forcément une morale négative. Hein. C'est une morale beaucoup plus saine que plein d'autres morales.
On vous écoute.
Figlio mio, dove sei? Sei morto, io senza di te non sono più madre. Maddalena, apostoli miei, tutti quanti, dov'è il vostro maestro che tanto vi amava? Dov'è il vostro maestro che amava? È morto.
Alors, quand vous allez chanter en Italie, parce que vous y allez souvent, et vous chantez ces chants-là, il est même possible que des gens qui sont là dans la foule et qui disent mais ça, ça me rappelle peut-être des chants de ma grand-mère, etc., de ma mère, de ma grand-mère. Comment ils réagissent, les gens là-bas? Est-ce qu'ils sont contents que vous, vous remettez, entre guillemets, au goût du jour, ces chants qui étaient un peu perdus?
Alors, en Italie, les chanteurs, enfin, les gens que nous rencontrons et qui chantent encore, ils ont cette réaction-là, effectivement. Et on retrouve des versions différentes, des bouts différents, et du coup, voilà, il y a un échange qui s'est fait à ce niveau-là. Une écoute plus globale, enfin, ou dans le sens dans des bars ou des choses comme ça, quand on chante un peu dans la rue, c'est pas forcément un répertoire qui est d'emblée acquis, enfin, qui est, voilà, c'est un répertoire qu'on a voulu aussi oublier beaucoup en Italie, parce qu'on a voulu quand même oublier les racines paysannes, parce qu'on est devenus tous des citadins bien comme il faut, avec. Et donc, on a voulu beaucoup.
Tous, c'est voilà. Ça, les autres, parce qu'on est trop nombreux, bien sûr.
Et ces sons-là, je me souviens très bien, un café à Rome, après justement un stage avec Giovanna Marini. On avait chanté et les gens, ils étaient, voilà, ils avaient des yeux un peu voilà, ébouriffés. Mais sinon, voilà, avec les chanteurs et les gens où ces chants résistent, parce que c'est vraiment des poches de résistance aussi politiques, souvent, justement contre l'uniformisation et la globalisation, le capitalisme. Voilà. Et donc, souvent, voilà, ça, les versions que nous avons font que voilà, ça vibre ensemble quand même.
Des gens qui viennent vers vous en disant oh ben dis donc, moi j'ai des chants que je connaissais, vous voulez les étudier, ça arrive aussi des témoignages?
Oui, oui. Ça arrive. Après, beaucoup d'Italiens, ils ont tout oublié. Comme dit Marguerite, ils ont tout oublié. Mais par exemple, moi j'ai un de mes de grands amis, un Florentin, qui a été enfant de cœur, qui les a tous chantés, ces choses-là. Et il fait comme ça, avec des voix comme ça. Et quand il est venu au dernier concert qu'on a fait en Toscane, des chants sacrés toscans, à la fin, il était véritablement ému. Et il me dit, mais moi, tu sais, je connais une autre version de... j'ai un Kyrie qui est pas mal. Voilà, qui a jusque-là, avec tout l'amour et l'affection qu'on peut avoir ensemble, c'était vraiment, oh là là, elle s'intéresse à des trucs insupportables, la pauvre.
Je peux juste ajouter peut-être une chose, que lors des concerts ou des spectacles qu'on fait, très souvent à la fin du spectacle, il y a des gens qui arrivent pour demander comment ils peuvent nous suivre, ou bien qu'ils ont des choses à raconter, ou bien voilà, qu'ils voudraient bien parler avec les responsables pour pouvoir transmettre des choses. Oui, voilà. Oui. Et souvent, c'est des choses qui se réveillent vraiment au moment du concert.
Dans leur mémoire.
Il y a des choses qui sont vraiment très, très, très endormies, ensevelies dans la mémoire.
Alors justement, avant de passer une autre chanson, comment on peut justement vous suivre? C'est important ça aussi, hein, il faut faire un petit peu aussi le côté technique. Oui. Il y a un site.
Alors il y a un site comment ça se passe qui s'appelle lamagese.fr.
Avec 2G.
Avec 2G.
S seulement.
S seulement. Et une page Facebook, Insta, donc Magese, si vous tapez la Magese, Magese.
Et il y a une newsletter.
Il y a une newsletter.
Ah, ça, c'est
voilà.
Bien.
Voilà, il y a une newsletter, si vous nous écrivez, la Magiante.
Par contre, c'est la Magiante, là. Avec 2G, toujours.
C'est la Magiante@gmail.com. Là, après, on vous envoie tous les mois. Rarement, ça arrive deux fois par mois, mais tous les mois, que c'est tous les délires qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, si on fait des rencontres, des transmissions des chants, si on fait des concerts, si on fait des spectacles, si on part en tournée.
Tout est marqué dans les
chansons.
Alors là, on va écouter une chanson qui s'appelle Andramu Pai. Alors peut-être je le dis mal, moi. Deux mots sur cette...
Alors ça, c'est un chant, c'est une chanson, enfin un chant, disons qu'on chante... Donc ça, c'est un groupe qui s'appelle Cantalise, où nous sommes venus déjà une fois en émission. Donc c'est un groupe que moi j'ai créé avec deux musiciens, Samuel Zucca et Guillaume Fontanarosa, qui ont eux aussi, comme leur nom l'indique, des origines italiennes.
et on en reparlera après. Donc voilà, là c'est des chants, parce que moi en fait j'ai rencontré les chants traditionnels italiens, disons, avec des gens qui venaient de Salento, depuis quand j'étais à la fac en fait. C'était tout le mouvement du folk revival des années 2000, et voilà, du coup avec eux on a monté un répertoire qui frôle beaucoup Salento, le sud de l'Italie, voilà.
Un peu plus là de chansons traditionnelles, de danse.
Il y a de la danse, mais pas que. Il y a aussi, ouais, voilà, des chants, voilà, d'amour, qui vont aussi de la Toscane, mais bon, voilà, beaucoup plus de la Toscane in giù, diciamo.
Vers Orvieto di più.
Voilà.
Ah, donc c'est l'Umbria.
Non, c'est des siennes, on peut dire. Voilà,
ah ouais,
en bas. Ouais. Voilà.
Et ci sono anch'io.
Peut-être,
alors,
voilà, ça va être Poggibonsi, si ça peut être à mi-chemin.
Ah, entre... Florence, c'est pas Florence,
non. Juste comment on peut te suivre aussi avec Cantalizo?
Bah, pareil, Cantalizo, il y a une page Facebook, mais Cantalizo, il fait quand même partie de la Magese, et donc vous retrouvez quand même la page, enfin aussi sur les sites. Et donc, j'ai choisi ces chants parce que, voilà, pour rester aussi dans la thématique de l'immigration, c'est un chant qui vient donc del Salento, mais c'est un grico, donc le grico, c'est une sorte de langue en fait qui s'est créée avec les colonies de la Grande Grèce qui se sont installées dans le sud de l'Italie, et ils se sont fusionnés avec les gens de là-bas, et du coup voilà, moi ça me fait toujours du bien de penser qu'il y a des peuples qui peuvent ne pas mettre des frontières, mais plutôt voilà, qui peuvent mettre en commun leur culture, et du coup voilà, c'est une langue, des langues aussi minoritaires qu'il faut quand même défendre et protéger. Et du coup, ça se dit Andramo pai Andros, donc l'homme, mon mari s'en va, et il s'en va travailler dans les mines en Allemagne. Et après, il y a l'enfant qui arrive et qui dit mais papa, pourquoi tu dois partir? Et l'autre, il dit bah, parce que la vie, elle est comme ça. Les pauvres, ils suent et ils travaillent pour engraisser le patron.
Ah, bah, ça n'a pas beaucoup changé.
Ça n'a pas beaucoup changé.
Non, depuis quelques centaines d'années, on pourrait dire maintenant. Merci à la Magese.
tiene pai per mai a ti. Ya di tu yene zui marapedia.
Margherita, tu voulais rajouter quelque chose sur, cette, sur ce chant?
Oui, juste une chose aussi, qu'on n'a pas nommé les duos qu'on a avec Anna, où on a un duo de poésie et chant traditionnel qui s'appelle « Il suffirait d'un jour de soleil ». Vous pouvez voilà, voir sur les sites, aller écouter, voilà, il y a des disques aussi et tout ça. Et juste pour enchaîner avec donc, Cantalizo, bah, l'accordéoniste donc, Samuel Zucca, il joue aussi en fait, dans donc, les concerts et spectacles que nous ferons les 30 et 31.
Et oui, on va donner justement les informations. Hein. Donc la Magez est en concert le 30, le samedi 30 à 20h. On rappelle le dimanche 31 à 15h. C'est important de dire à 15h parce que les gens ils aiment bien venir l'après-midi. C'est au 57 rue Étienne Marcel à Montreuil. Et donc ça sera en direct. C'est métro ligne numéro 9, arrêt Croix de Chavaux, sortie 5. Voilà. On termine avec Nina Nan. Merci à vous trois. Et waouh, faut revenir très vite. Hein. À la rentrée, il faut qu'on refasse des émissions avec vous parce qu'on est transporté dans le sud de l'Italie et dans le nord et partout. Merci à vous.
Mes grands-parents ont vécu cachés sous un faux nom et à un moment donné, mon oncle est né.
Fate la nina tu, poupe de pets.
Quand ils ont occupé la partie nord, ma grand-mère a dû descendre à Marseille et elle a dû laisser son fils, mon oncle. Il a laissé à une tante, mon oncle est de 42, il devait avoir 3 ans. Elle a laissé à cette tante qui avait déjà perdu son fils. Il lui a dit « Ciao, io vado a comprare il pane, salut, je vais chercher du pain. » Elle a dû fuir à Marseille. Et elle y est restée jusqu'à la libération. Pour presque un an, ils ne se sont pas vus. Mon oncle était dérangé. Je ne crois pas que ce soit cet événement-là, mais bon, ce qu'un enfant de 3 ans vit, qu'est-ce qu'il en sait, lui, de la guerre, des nazis, sa mère qui lui ment? Si ça, c'est mentir. Sa un tubo, lui.
Pacienza che ci vuol, a st'otro non c'è pace, la papetta non c'è piace.
Raffaelito.
Eh oui, la messe est dite, Michel.
Encore, ça c'est Cantalina qui dit ça et elle sera là la semaine prochaine. On remercie vraiment la Magez. On vous rappelle que vous pouvez les suivre sur leur newsletters, enfin leur lettre d'information plutôt, la Magente avec 2G. Voilà. Et puis, on vous remercie, on vous souhaite plein de bonnes choses. Puis, vous pouvez encore appeler un petit peu au 06 95 66 31 59.
Oui, 06 95 66 31 59.
Voilà,
on salue. Remercie Enrico Mastro
et
Giovanni.
Puis également Mario Vecchione. Et puis aussi un grand bisou à Walter Tenaglia. Parce que, attention, à jeudi, il a une grosse médaille hein, au consulat. Attention, hein, il va devenir à quelqu'un. Et puis on salue Renato qui est rentré aussi. Voilà.
Allez, bonne domenica.
Ciao
à tous.
À la prochaine. Ciao.